Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé.
Rêveurs audacieux.
Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif.
Conspirateur positif.
Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
Et si demain n'était pas foutu ?
Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Maxime de Rostolan, entrepreneur ascendant guerrier, ingénieur devenu paysan militant, catalyseur de nombreux projets, dont Bluebees, première plateforme de financement participatif entièrement dédiée aux projets à fort impact écologique et social, Ferme d'Avenir, accélérateur de transition agricole, SailCop, le blablacar de la voile, ou encore La Bascule, un mouvement citoyen visant à faire basculer la société vers un modèle plus résilient et respectueux du vivant. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et enfin un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Alors, le fil rouge de cette émission, c'est la confiance. La confiance en l'avenir, la confiance en notre capacité à le faire advenir, la confiance que j'ai en celles et ceux que je reçois. Eh bien moi, Maxime, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce qu'il y a quelque chose de magique dans ce que tu fais, car cela prend toujours des proportions dorées. J'ai confiance en toi parce que si tu trouves une solution percutante à un problème bien senti, tu vas écrire une lettre et l'envoyer à un ministre qui, encouragé par ta communauté prise à témoin, te répondra dans la demi-journée. J'ai confiance en toi parce que j'ai pu me reposer sur toi, à un moment où, comme dans un film d'espionnage qui tourne mal, Rio ne répondait plus. J'ai confiance en toi parce que pour toi, l'avenir, les futurs souhaitables, c'est les demain dans la Terre. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur d'être ici avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, Maxime ?
Alors déjà, moi, c'est mon époque. On n'a qu'une vie et j'ai envie d'en profiter et d'en tirer le plus grand bonheur qui soit parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. Après, j'ai grandi pas loin d'ici, dans un univers urbain qui s'est, à mon avis, étendu et qui a même imposé son modèle au-delà des frontières de la ville. À l'époque, être à la campagne, c'était être un bouseux, c'était terrible. Et on ne voyait et on ne comprenait que ce qu'il y avait à portée de rue, à portée de bitume. Et ça a été... Une première révélation lorsque j'ai lancé Ferme d'Avenir, de comprendre qu'en fait, tout s'arrêtait pas au périph. Alors j'avais déjà voyagé avant, mais le fait de poser mes valises dans un univers rural a été une vraie reconnexion aux saisons, aux vivants, aux gens aussi, parce que j'avais pu vivre des années dans des immeubles sans jamais rencontrer ou échanger avec mes voisins, et dans un petit village, c'est tout de suite différent. Donc, je suis quelqu'un qui adore la vie, clairement, et pour parler de notre époque maintenant, celle de 2020, je pense qu'on vit une époque passionnante. Enfin, je sais pas comment nos parents appréhendaient la leur, où tout semblait facile, où tout semblait gagné. Aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où tout est remis en question. Et je pense que plus que jamais, on est au cœur de la complexité. Et ce que je crains de notre époque, les dérives qu'on peut voir poindre, c'est la tentation de la simplification. De dire, en fait, c'est facile, le problème, ça vient d'eux. C'est facile, la solution, c'est ça. Et en fait, peut-être que, d'ailleurs, c'est exacerbé par les écrans, mais il faut absolument se nourrir de cette complexité pour essayer de trouver un chemin d'espoir, d'espérance. Ce qui nous est aujourd'hui proposé dans les chaînes d'information en continu, sur les réseaux où chacun se cache derrière un pseudo pour dire n'importe quoi, et sans avoir à en assumer les conséquences, c'est un chemin qui, à mon avis, est sans issue. Et quand on voit, et quand on entend d'ailleurs les jeunes parler d'avoir 20 ans en 2020 et de comprendre à quel point leur existence est le reflet, ou en tout cas le sillage de ce que des générations inconscientes auparavant ont pu faire, on peut comprendre cette détresse, mais je pense que l'humain doit dépasser ça et peut dépasser ça, peut aller chercher justement dans cette situation qui est une crise ou qui n'est pas une crise, puisque si elle est permanente, effectivement, c'est plus forcément une crise, mais peut aller chercher des solutions. Un des points de vigilance, en tout cas, que j'essaye de donner, en tout cas à mon engagement, c'est le rôle central qui finalement est donné à l'argent. Et si on ne considère que ça, en fait, on va dans le mur, parce qu'il est bien plus facile de faire de l'argent avec de l'argent et des modèles mathématiques sur des tableaux que de s'ancrer dans la réalité et de voir ce que ça donne dans les faits. Et si les économistes continuent à être dans leur coin pendant que les scientifiques tirent sur toutes les sonnettes d'alarme possibles sans être écoutés par finalement ceux qui dirigent le monde, c'est-à-dire les économistes, ça va être compliqué. Et donc, je pense que moi, je suis très heureux de vivre ce moment, de vivre cette étape charnière, je pense, hein, dans l'histoire de l'humanité et de la civilisation. Je suis très heureux parce que c'est là qu'on va devoir remuer notre matière grise et essayer de trouver des solutions. Et elles existent, elles sont déjà là. Et maintenant, il y a un sujet, c'est comment est-ce que on les rend légion.
Alors, dans ton dernier livre, entre autres phrases inspirantes, « Impossible de rester indifférent, dis-tu, les bras croisés. Nous ne devons pas continuer comme avant, mais bien aller de l'avant. »
Ben oui, forcément. En fait, en regardant au loin et en regardant, je sais pas, moi j'ai des enfants, en regardant ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils pourraient vivre dans plusieurs années, ben, j'ai beaucoup d'espoir, parce que la vie est belle. On n'en a qu'une et autant j'ai pas envie de sacrifier mon bonheur et celui de mes enfants à être en permanence en colère contre le monde, autant je ne vois pas d'autre solution que de créer l'avenir qu'on veut voir advenir. Et donc pour ça, faut mettre un pied devant l'autre et on apprend que comme ça.
Comme dit le libre penseur à propos du karma, on a peut-être plusieurs vies, mais celle-là, je sens que c'est la bonne.
J'adore.
Alors moi, pour te connaître un peu, je me rappelle quand même que tu as coutume de dire que tu as vécu trois révolutions dans ta vie. Les champignons hallucinogènes, la communication non violente et plus récemment, la méditation.
Tu veux qu'on parle des champignons hallucinogènes ou de la méditation?
Des trois.
On est toujours dans cette remise en question de ce qu'on nous vend comme innégociable, et cette réalité, on nous dit t'es pas réaliste, utopie. Quand j'étais en prépa, je crois, j'avais sur ma trousse écrit au Tipex « La réalité est une illusion créée par l'absence de drogue ». On n'aime pas. Toujours est-il que quand on essaye et qu'on pratique un petit peu les psychotropes, on comprend que notre cerveau est quand même très fortement bridé et qu'on n'en utilise qu'une infime partie. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir à explorer ce que mon cerveau pouvait me renvoyer de la réalité avec un grand R ou entre guillemets. Et j'avoue que ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, je crois. Et quelque part, ça m'a conféré une forme de tolérance, je pense, et d'amour de l'inconnu.
Ça, c'est ton envie de défricher les nouvelles frontières.
Peut-être.
L'autre découverte, c'est la communication non-violente. T'en parles souvent. Et la communication non-violente, c'est, le dit Marshall Rosenberg, la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie, d'acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur, et enfin d'acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner.
Alors déjà, juste petite parenthèse, la communication non violente, je trouve que c'est très mal nommé parce que ça voudrait dire que, ou ça laisserait à penser que lorsqu'on ne fait pas de la CNV, eh bien en fait on est dans la communication qui est violente, ce qui n'est pas forcément le cas. Et deuxième chose, la communication non violente n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qu'on va déclencher à certains moments pour désamorcer des conflits qu'on voit poindre, par exemple. Et donc, quand on se met en configuration communication non violente et qu'on dit, tiens, là, il y a un sujet, mettons en place la méthode, parce qu'il y a une méthode assez claire, le postulat dont on part est qu'on est en bienveillance. C'est-à-dire qu'on est... Si jamais le but est de s'engueuler et de dire « toi, je t'aime pas, c'est pas d'accord », ça sert à rien, en fait, de faire de la communication non-violente. En revanche, quand on est dans un contexte de réflexion et d'amitié, on est face à quelqu'un et la discussion doit être sur des bases communes. Et la base commune, c'est « je t'aime ». Je t'aime en tant que personne, je veux ton bien. Et là, on voit juste qu'on n'est pas d'accord. On va essayer de trouver la meilleure manière de s'entendre. Et donc, ça, je trouve ça fabuleux. Et la méthode qui est proposée est ce qu'il y a de plus logique. Mais en fait, tant que ça n'avait pas été formulé, tant que je ne l'avais pas lu, ça ne m'était pas venu. Et donc, ce bouquin de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, quand je l'ai lu, je l'ai relu direct après avoir fini la dernière page. Je dis, attends, il faut absolument que je me réimprègne de ça. Et je l'ai offert à beaucoup de monde. Et j'ai fait moi-même beaucoup les tests avec mes parents, avec ma compagne, ma femme, avec des amis. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que c'est l'amour. C'est l'amour qui est le carburant ou l'envie derrière. Et j'adore parce que on voit qu'il y a plus de conflits. Il y a juste des sensibilités différentes qui, puisqu'elles sont en bienveillance l'une avec l'autre, vont aider à se faire grandir mutuellement. Et je trouve ça super, et de fait, ça marche.
Alors, ta dernière découverte, plus récente selon tes dires, et c'est vrai qu'il est peu dire que tu es un homme d'action, c'est justement la méditation.
Ça a été... ma femme m'en parlait depuis des années, et c'est vrai que on peut avoir des artifices dans la vie qui laisse à penser qu'on n'en a pas besoin et que on peut s'en tirer autrement. Je veux dire, pour se déstresser, pour se vider la tête, etc. Et un jour, une amie, Marianne Linhart, qui a écrit Passage, un super bouquin, a voulu tenter une expérience, le monastère discothèque, un petit peu. C'est-à-dire concilier ce besoin de se découvrir à l'intérieur avec l'envie qu'on peut avoir de le faire à plusieurs. Et donc, on est parti à une trentaine d'activistes et on a fait une retraite qui, dans les premiers jours, fut silencieuse et est guidée par Martin Aylward, qui est super, en Dordogne. Et ça a été une vraie révélation. Au départ, c'était « mais je ne comprends pas où tu m'emmènes » et en fait, il se trouve que ce que tu me racontes, je sais déjà et j'ai pas vraiment besoin de ça. Et en fait, à rester seul avec soi-même, à ressasser cette lubie ou cette conviction, elle tombe, elle se détricote. Et on se retrouve seul face à soi-même à dire « mais attends, mais si jamais j'arrive pas à maîtriser moi-même mon cerveau dans un contexte apaisé, dans un contexte adéquat, puisqu'on est vraiment en plus dans un écrin de verdure, c'était magnifique. Si j'arrive pas à faire ça, en fait, dans les moments de tension, dans les moments plus compliqués, c'est sûr que je le maîtrise pas et que je me laisse dépasser par mes émotions. Et on sait que elles sont nécessaires, les émotions, mais si on se laisse manger par elles, on n'est plus très rationnel. Et voilà, et ça a été une vraie expérience. Ouais.
Et comme tu le rapportes si bien dans ton livre En avant, l'optimisme pour Cap, Martine, il vous a pris de court, vous les désireux d'aventure, vous les suractifs, en vous disant ceci. Comme beaucoup de gens qui vénèrent l'action, vous vous dites certainement que les contemplatifs sont de doux rêveurs, pour ne pas dire des fous, des inconscients. Alors que les crises de tout ordre assaillent la société, que la maison brûle, ils s'asseyent, les jambes croisées, ferment les yeux et se donnent un mal incroyable pour surtout ne penser à rien. Le monde s'effondre et ils semblent heureux, détendus. Ça vous paraît insensé. Mais vous êtes-vous déjà demandé de ce que les contemplatifs peuvent bien penser en voyant des hyperactifs s'agiter dans tous les sens, sans cesse à la hâte, éternellement occupés à tenter de changer le cours des choses? Eh bien, il s'interroge sur la possibilité d'améliorer le monde quand on n'a pas les idées claires, quand sa pensée se laisse dicter, voire parasiter par une émotion comme la peur ou des injonctions extérieures comme l'urgence ou bien la performance.
Ouais, c'est vrai qu'il nous a un peu coupé l'herbe sous le pied et en plus, fort de son expérience, puisque sa fille est l'une des fondatrices de Extinction Rebellion en Angleterre. Et nous, on était tous un peu des rebelles. Hein. Et quelque part, il a réussi à d'emblée nous convaincre de le suivre, puisqu'en fait, il a les deux côtés de l'histoire. Et moi, je vois beaucoup dans les activistes des gens en colère, des gens qui sont toujours au combat, d'ailleurs, hein, toujours sur ce mot-là. Et c'est compliqué, je pense, de faire confiance à des gens qui sont mus par ce genre d'énergie et je suis très reconnaissant en fait à tous les gens qui conscient de ce qui se passe autour décident de prendre le temps et je suis ressorti de cette première semaine de méditation très 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 apaisé et pour la première fois vraiment je pense connecté naturellement sans produit à moi-même. Et j'ai trouvé ça très puissant, et depuis, j'ai essayé. Alors, évidemment, on a tous nos rythmes, et voilà, mais j'essaye de le faire régulièrement, et ça me fait toujours du bien.
Mais ça se voit.
Merci.
Donc, tu as fait du très haut avec des rôles en amont sur la pédagogie, tu as fait du local avec une ferme, même si tu avais des ambitions de la répliquer, évidemment, au niveau national. En fait, tu as utilisé beaucoup d'expériences, beaucoup de périmètres. Fort de cette expérience, quel est le périmètre qui te paraît le plus adéquat pour participer à la métamorphose du monde ?
Il me semble que la diversité des modes d'action, des stratégies, est indispensable. Faire croire à qui que ce soit d'ailleurs que la solution est simple et que c'est ça, arriver avec une solution unique, c'est pas bon signe. Et donc, je pense que la posture, avant de savoir le périmètre, la posture qu'on devrait avoir, c'est une posture de coopération bienveillante. Et ça permet justement d'additionner les modes d'action et d'éviter des espèces de querelles qu'il peut y avoir dans le monde militant entre des groupes qui ont souvent les mêmes valeurs. Ils ont 90% de base commune, mais comme ils n'ont pas la même stratégie, voient dans ceux qui en tentent une autre des concurrents. Et vont passer une partie de leur temps à essayer de démonter cette stratégie. Et ce que je trouve, voilà, donc, ça c'est pour la première chose, c'est la posture de coopération et de tolérance vis-à-vis des autres stratégies, parce que personne ne sait exactement comment on peut se sortir de cette situation qui n'est pas une crise, tu l'as dit, mais de ce modèle. Après, c'est chacun avec soi. Ma sœur, par exemple, qui habite dans une yourte, qui fait du pain, qui a fait du fromage, n'a pas envie de s'embêter à aller voir des ministres, à essayer de convaincre des gens inconvaincables que ce qu'elle fait est bien. Et en fait, elle incarne. Et donc son périmètre est un périmètre finalement un peu cocon, hein, qu'elle se crée. Elle se crée elle-même le monde qu'elle aimerait voir partout, mais à défaut de pouvoir le construire partout, elle le fait pour elle. Et c'est très utile pour des gens qui, comme moi, sont dans une autre approche qui est effectivement à un moment plus global et qui vont... Enfin voilà, quand je vais à l'Assemblée, quand je vais voir des élus, j'ai besoin en fait, dans mon argumentaire, d'avoir des exemples de gens qui, à leur échelle, démontrent que oui, c'est possible, ils arrivent à être heureux. Et en plus, regardez, autour d'eux, ça se passe bien. En revanche, ce que j'ai du mal quand même à faire comprendre à pas mal de gens qui critiquent la manière dont moi je tente les choses, c'est de dire, penser que tout peut se jouer au niveau local et qu'il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour que ça arrête de se vendre, comme disait Coluche, là, je pense que c'est un peu trop facile, parce que c'est aussi s'exposer à beaucoup de déceptions. On voit que le levier avec le plus gros moment, hein, cette histoire de force, avec le plus gros moment, ça reste la politique, et que si on ne s'adresse pas, si on ne s'impose pas sur ce champ-là, ce qu'on fait relèvera toujours de l'alternative. Et moi, je veux pas que les choses restent des alternatives, je veux que le modèle dominant intègre clairement, jusqu'à s'en trouver profondément modifié, ces alternatives qui sont, d'après moi, beaucoup plus résilientes. Donc je pense que, quelles que soient vos envies, votre périmètre, vous le trouvez dès lors que vous êtes, et ça c'est à nouveau un petit clin d'œil à la méditation ou à la connaissance de soi, dès lors que vous êtes aligné, vous êtes dans le bon périmètre, je pense.
Alors toi, ton nouveau périmètre, qu'il soit temporel ou spatial, c'est la forêt. Cette espèce de tradition d'avenir que représente la sagesse des arbres.
Depuis plusieurs années, je suis un ami que j'adore, qui s'appelle Tristan Lecomte, et qui, après avoir monté Alter Eco, donc le commerce équitable avec le chocolat, le riz et tout ça, et le café, a décidé d'accompagner les coopératives de producteurs, de petits paysans avec lesquels il travaillait, de les accompagner dans la manière qu'ils avaient de cultiver et de préserver, voire de régénérer leur territoire. Et il a décidé de planter des arbres avec eux, et il a donc monté Pur Projet pour ça, et j'ai depuis 2010 contribué autant que je pouvais à cette aventure. Et là, elle est revenue comme une évidence pour moi, parce qu'en fait, je sortais d'une période assez éprouvante. Je fais juste un petit pas de côté, mais Ferme d'Avenir, on a prouvé qu'on pouvait produire différemment, que plein de gens étaient volontaires pour le faire, que ça faisait du bien au territoire. On a montré qu'il y avait une distorsion de concurrence avec l'agriculture industrielle, et donc on a essayé de proposer des aménagements, notamment dans la loi, et c'est ce que j'ai fait dans les états généraux de l'alimentation. Et donc on a passé un amendement qui a été voté, mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et là, ma réflexion a été de dire, ok, on a réussi à convaincre les parlementaires qu'il y avait un problème, on a proposé une solution qui leur convenait, et là, le Conseil constitutionnel a quand même réussi à le censurer. Donc nos institutions sont finalement conçues pour ne pas faire gagner l'intérêt général. Et c'est là que j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir et de lancer la bascule pour remettre l'intérêt général au cœur des priorités politiques. Donc c'était un mouvement très politique, apartisan, hein, mais très politique. Et en fait, ça a pris une forme très rigolote, puisque comme quand j'ai lancé cet appel, il y a eu des milliers de jeunes étudiants qui ont dit « Oh, viens, je suis, moi, je veux bien m'embarquer dans cette histoire, on va la faire, cette révolution ». Il a fallu les loger et on a trouvé un hôpital désaffecté à Pontivy en Centre-Bretagne où à une centaine on est parti s'installer sans eau, sans électricité et en faisant ce qu'on pouvait pour être le plus résilient possible et ça a été une superbe aventure. Et tous ces jeunes qui ont pour beaucoup bossé avec des paysans du coup sont allés donner des coups de main sur leur territoire m'ont confié à la fin m'ont dit le fait de vivre ensemble et de partager cette vie en collectif avec de la gouvernance partagée pour se mettre au service d'un sujet ou d'un projet qui nous transcende, c'est irréversible. Continuons à créer des lieux. Alors j'ai eu d'un côté ce besoin de créer des lieux, mais avec une forme de modèle économique, hein, même si on désobéit, il faut malgré tout à un moment refaire la toiture, il faut avoir un peu de sous, donc avec une forme de modèle économique, et de l'autre côté ce besoin de planter beaucoup d'arbres. Il faut planter, et donc là je m'en réfère aux scientifiques, hein, il faut planter 25 000 km de haies par an en France, on en plante 2005. Donc bien en deçà de ce qu'il faudrait. Il y a plein de facteurs limitants à l'ambition qu'on devrait avoir. Il faut trouver des bras, il faut trouver des sous, il faut trouver des experts, il faut trouver des parcelles où planter. Il faut trouver aussi des plans d'arbres. Et donc je me suis dit, mais en fait, il faut donc créer des pépinières. Si autant de gens que ça sont prêts à donner un mois, six mois, un an de leur temps pour un projet d'intérêt général, et si en plus ils vivent en collectif, si en plus ils apprennent quelque chose, eh ben en fait on va trouver ces bras-là. Moi je fais très confiance à l'humain, in fine. Il faut juste lui donner les outils, il faut juste lui donner le cadre, l'espace-temps pour le faire. Et donc c'est là que j'ai décidé de réfléchir et de creuser cette question. Alors plus que la forêt, moi ce qui me paraît une vraie piste à creuser, c'est l'agroforesterie. C'est le fait de remettre des arbres dans et autour des champs. Et donc là, clairement, les experts disent qu'il y a tout un chantier à mener. Et donc j'ai imaginé comment est-ce qu'on pouvait faire fois 100 sur le nombre d'arbres qu'on plante aujourd'hui. Et effectivement, c'est l'idée Community Trees, et on est en train de la prendre par plusieurs angles, parce que on voit que c'est pas simple, et qu'une idée, même si elle emporte l'adhésion de tout le monde, ben en fait, pour la mettre en œuvre, et ben les obstacles sont nombreux, et donc on a décidé de le faire avec l'État, parce que j'essaye autant que possible de convaincre les dirigeants du bien fondé de ces idées. Donc là, on travaille avec la Banque des Territoires et on essaye de faire un business plan qui leur convient parce que l'État ne veut pas investir à perte, entre guillemets. Enfin, il y a du fort un retour sonnant et trébuchant. Il n'a pas compris que le retour extra-financier peut être bien plus important, même en termes d'économie plus tard. Donc on essaye avec l'État, on essaye sans l'État. Donc on le fait avec des collectivités locales, avec des opérateurs locaux. Et on va aussi le faire contre l'État. Parce qu'en fait, c'est trop facile de toujours... dire, bon, on peut pas tout attendre des politiques, c'est aux citoyens de changer. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à changer le politique, et pour ça, on a bien compris que seul le rapport de force arrivait à les contraindre. Et donc, on attaque l'État en justice sur son inaction en termes de plantation d'arbres, alors qu'il est pertinemment au courant qu'il faut le faire et que c'est urgent.
Alors, tu le dis, une idée, même si elle est partagée, si elle est entendue, si elle est évidente, les obstacles sont nombreux. Et moi, ça me rappelle une histoire d'autrefois, l'histoire de Georges Fabre et de Charles Flahaut. Georges Fabre et Charles Flahaut étaient des hommes du 19e siècle. Des hommes du 19e siècle qui ont rencontré le mont Aigoual. Le mont Aigoual, c'est le second plus haut mont de Lozère, après le mont Lozère, et le plus grand du Gard. Le mont Aigoual, autrefois florissant, avec plein de hêtres, s'est petit à petit, au cœur de la révolution industrielle, s'est fait enlever sa richesse. Plus d'arbres, un caillou, un monde minéral. Mangé par le pâturage, voire le surpâturage, les prélèvements pour le bois de chauffage, pour la mine, ou pour l'industrie des forges et des verreries. Plus rien. Et dans les Cévennes, il y a le fameux épisode Cévenol, ces crues terribles qui dévalent, et qui éboulent, et qui ruinent des villages entiers. Donc Georges Fabre, polytechnicien, ingénieur des eaux et forêts, et Charles Flahaut, botaniste, avait envie, comme toi, de résoudre un problème de société qui touchait l'intérêt national. Replanter des arbres sur le mont Aigoual. Comment convaincre ? Tout le monde est d'accord, personne n'a d'argent.
Et c'est là où, je trouve, l'histoire est un lieu, encore une fois, de référence et pas de résidence, mais voilà ce que fait Georges Fabre. Il a l'intelligence de prendre du sable du Mont Igual, de prendre du sable des affluents qui alimentent in fine la Garonne, et du sable en rade de Bordeaux. Il va devant la préfecture de Gironde et dépose sur le bureau du préfet les trois sables qui sont de la même couleur. Et il dit « Tout l'argent que vous prenez pour désensabler le port de Bordeaux chaque année, donnez-m'en un petit peu et en amont au Mont Igual, je reforesterai, vous n'aurez plus à le faire. » Et il convainc, il a de l'argent, première étape accomplie, l'argent. Fort de cet argent et de quelques gardes forestiers, ils vont voir au Mont Lozère comment faire. Et là, problème de biologie, plus rien ne pousse. C'est là où Flao a une idée. Il va partout en Europe, dans des contrées un peu arides, et il trouve une association biologique. Il remplace le mal de dos par le mal de crâne. Et il trouve une solution, un mélange d'aêtre et d'épicéa. Deuxième problème résolu. On a le problème résolu, on a l'argent, on retourne en Lozère, et là, étonnamment, les Lozériens les caillassent. Ils ne veulent pas changer leur mode de vie. Leur mode de vie était devenu du pâturage, ils ne voulaient pas reforester, ça ferait moins de surface pour les troupeaux. Et toute l'intelligence de Fabre qui a mis 30 ans, c'est de transformer une économie pastorale en une économie forestière. Et malgré ça, malgré 35 ans, malgré 68 millions d'arbres plantés, eh bien à la fin, il a été rétrogradé. Donc même en ayant la reconnaissance de celles et ceux qui ont vécu, eh bien il a eu quelque chose de l'ordre du politique. Donc tu vois, les difficultés en tout temps sont un peu toujours les mêmes.
C'est une belle histoire que je ne connaissais pas. Je vais essayer avec le sable, on va voir ce que ça donne. Le maire de Bordeaux, il sera peut-être sensible.
Donc il y a trois leçons qu'on peut tirer de cette histoire. La première, c'est la difficulté qu'on a à convaincre pour avoir de l'argent. La deuxième, c'est la difficulté pour trouver des solutions à des vrais problèmes, notamment biologiques. Et la troisième, c'est la difficulté de faire changer les habitudes.
Effectivement, on est toujours embourbé dans ces questions-là. Et ce serait trop simple d'imaginer qu'il y a un ordre dans lequel régler ces sujets. Et je pense qu'il faut y aller... En parallèle, là aujourd'hui, on a un monde paysan qui est très ancré, hein, qui a depuis 50 ans appris et vogué sur un modèle qui est l'héritage de quelque chose qui en son temps était sans doute légitime, mais qui aujourd'hui a montré ses limites. Et on va devoir convaincre et les paysans et les réfractaires extérieurs, hein, qui pour beaucoup défendent le modèle coûte que coûte. Trouver l'argent, encore une fois, je pense que c'est une vue de l'esprit. Je pense que si les politiques acceptaient de considérer non pas un seul prisme, mais plusieurs prismes, c'est-à-dire en plus du capital financier, considérer le capital naturel et le capital humain comme de réels capitaux qui font ce que nous sommes aujourd'hui...
La triple comptabilité dont parlait Yannick Rodeau.
Ouais, la comptabilité en triple capital, effectivement, qui est un des vrais sujets, je pense, qui pourrait réformer en profondeur notre système. Et ensuite, convaincre et trouver de l'argent. Et les solutions, en fait, elles existent. Et ça, c'est quelque chose que depuis une quinzaine d'années maintenant, j'explore. C'est vraiment aller piocher dans la nature. Et ça s'appelle la permaculture. L'agroforesterie est un des outils que la permaculture peut déployer, et je pense que on a ces solutions. Donc, et pour terminer sur une note de réconciliation qui va aussi dans le sens de la du fait de convaincre les acteurs, il me semble que l'arbre est un totem de réconciliation. C'est-à-dire que on a tellement d'urbains qui sont attachés à ce symbole et qui sont prêts à aller donner de leur temps pour aller planter des arbres dans les champs puisqu'ils traversent la Beauce et ils voient ce territoire désolé qui est devenu un désert. Et en fait, ils pourraient le faire main dans la main avec les agriculteurs qui aujourd'hui considèrent les urbains comme des bobos déconnectés. Et donc moi, c'est mon message d'espoir, c'est que ensemble, on va régénérer nos territoires, on va régénérer cette planète. Et c'est le plus beau des chantiers qu'on ait à mener. Et je pense que la graine, l'arbre, est la première étape.
Il y a un proverbe africain ou apocryphe en fonction des sources. Le meilleur moment pour planter une forêt, c'est il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Merci Maxime.
Merci beaucoup.
Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps, et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040, dans la forêt de la Beauce. Incroyable de voir combien cet endroit a changé d'allure, d'échelle autant que de physionomie, autour de cette vieille usine d'engrais chimiques réhabilitée depuis que tu as lancé Communitrees. Il y a 20 ans, tu parlais de la nécessité de planter 750 000 km de haies, 750 millions d'arbres, en plus que de 100 millions de fruitiers. Avec tes légions de pépinières participatives locales, réparties désormais sur tout le territoire, on s'en rapproche. J'ai adoré la journée que nous venons de passer dans ce tiers-lieu hybride, mixant production d'arbres, centre de rencontre pour les acteurs des territoires, lieu de formation pour les volontaires comme pour des migrants, centre d'artisanat et d'industrie essentielle locale, qui font de leurs mains, avec la matière première du terroir, des biens nécessaires aux habitants du coin. Je me souviens de nos échanges. Quand certains semblaient craindre que tu ne les embarques dans une nouvelle ZAD, tu parlais plutôt, toi, avec l'enthousiasme qui est le tien, de nouvelles zones à bâtir plutôt que de nouvelles zones à défendre, rejoignant les zones où apprendre à vivre ensemble, les OAV d'Alain Damasio. L'esprit était en effet celui de la coopération, d'aération de la démocratie, comme le disait dans les années 20 l'économiste Thomas Piketty. Je suis ravi d'assister ce soir à votre fête de fin de saison de plantation, dans ce qui ressemble à un joyeux mélange entre une fête des voisins et un berlot, cet agapé de fin de vendange. Toutes les parties prenantes seront là ce soir, paysans, élus, acteurs économiques, citoyens, ensemble. 200 fêtes en simultané, comme tu sais si bien les faire, dans les 200 pépinières participatives locales de France et d'ailleurs. Via ce totem qui est devenu l'arbre, un véritable lien de confiance et de sympathie a été recréé. Les groupes, qui s'étaient perdus les uns pour les autres, se sont reconnus. Tous partagent désormais un sentiment d'appartenance à un même périmètre, à un même territoire. Votre vaste projet a aussi permis à la biodiversité de refleurir, générant de ce fait de nombreux services, de ce que rend une terre riche et respectée. La vision du travail de la terre en a été profondément transformée. Se sentant utile, des milliers de jeunes sont venus s'investir dans ces plantations d'un nouveau genre. Mais c'est le jour où l'État a consenti à investir dans le capital naturel, sans retour sur investissement, que la mise à l'échelle s'est opérée. Dans les années 23-24, reprenant le « quoi qu'il en coûte » et prenant acte de l'urgence climatique et environnementale, la puissance publique a basculé. C'est au même moment qu'elle a aussi associé chaque entreprise dans un objectif de neutralité carbone et décidé de remettre dans un pot commun tous les revenus supérieurs à 1 milliard. Tout cela a permis de financer des missions écologiques volontaires où les plus jeunes sont venus s'investir, de quelques jours à quelques années, sur des missions leur permettant de mettre les mains dans la terre et d'être acteurs de leur devenir. En parallèle, dans un autre secteur, CLCOP, sur laquelle tu t'investissais déjà en 2020, dispense désormais plus de 20 millions de trajets par an en bateau, soit une véritable alternative à l'avion. De même que Ferme d'Avenir participe activement aujourd'hui à la politique agricole territoriale. Bien sûr, d'autres chantiers d'intérêt général ont émergé toutes ces années, que tu as, comme à ton habitude, poussé, tiré, orchestré, pour tenter de nouvelles réponses à des problèmes anciens. Comme celui d'un système permettant qu'on ne puisse plus être aussi riche sans partage, où la place de l'argent a été revisitée, l'empathie enseignée, comme la parentalité d'ailleurs, devenue une discipline, du moins un apprentissage, aidant les parents à devenir parents. En lisant ce matin l'évaluation des services écosystémiques rendus, j'ai mesuré les effets de ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution de l'arbre. Les paysans produisent désormais de l'eau potable grâce à leur sol redevenu vivant. Ils captent du carbone par leurs nombreuses plantes vivaces et pérennes. Et la nouvelle PAC, le Pacte Agricole Citoyen, permet à tout un chacun de participer à ce chantier du siècle. Ce soir, nous célébrons les 400 000 km de haies plantées. Il reste 10 ans pour arriver aux objectifs des 750 000. Mais c'est déjà en soi une sacrée victoire de fêter pareil chiffre. Mais la victoire la plus grande réside dans la réconciliation des citoyens avec les paysans eux-mêmes, qu'on appelle désormais pour les célébrer des pays culteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.